Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Cap aujourd'hui sur l'Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé d'Afrique a la mauvaise réputation d'être un pays où la violence est monnaie courante, illustration avec un reportage sur les pratiques de satanisme. L'Afropresse suivra avec Marie-Ange Pierron, l'actualité africaine commentée dans la presse allemande. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Fréjus.
Alors en attendant de vous retrouver, quels seront les grands thèmes de l'Afropresse aujourd'hui ?
Voilà, bien avant de parler de Satan, c'est un ange qui vous parle, Fréjus, et nous parlerons de l'engagement de l'Allemagne en Afrique. Il sera question aussi du Rwanda et de l'Afrique du Sud notamment.
Et voilà pour le sommaire d'Afrique 7 jours. Bienvenue à tous. L'Afrique du Sud s'apprête donc à aller aux urnes le 7 mai prochain. La campagne bat son plein, la lutte contre l'insécurité et la criminalité est un des enjeux de ces élections. Une illustration en est la pratique du satanisme. Selon la police locale, les meurtres provoqués par le culte du diable sont en augmentation, notamment dans les townships de Johannesburg. Ainsi, à Soweto, le mois dernier, deux filles de 15 et 16 ans ont été tuées par deux garçons de leur classe adeptes du satanisme. Reportage de notre correspondante Valérie Hirsch.
Une femme appelle à chasser le démon lors de l'enterrement de Tandeka et Shwaita, poignardés dans un terrain vague à Soweto le mois dernier par deux jeunes de leur classe adeptes du satanisme qui ont été arrêtés dès le lendemain. La tante de Big Boy, l'un des deux meurtriers, montre la chambre du garçon et son ordinateur. C'est sur Internet, en regardant des clips vidéo de stars comme Lady Gaga et Rihanna, que Big Boy et son copain Tumelo ont découvert le satanisme.
Sur la porte, il y avait un grand dessin avec des croix dedans qui représentait l'esprit malin. La première fois qu'il a cherché sur Internet le nom du diable, il a découvert la Bible satanique. Il a mis en pratique ce que la Bible lui disait de faire. Il buvait du sang. Big Boy a raconté qu'un garçon s'était tailladé les veines à l'école et qu'il avait bu son sang. Il avait des coupures sur les bras. Son copain Tumelo avait une marque sur la paume. Quand il faisait quelque chose de bien, cela le démangeait. Il était supposé faire le mal. Il buvait du sang. Ils auraient dû tuer leurs parents, mais ils ne l'ont pas fait. Alors, le diable leur a dit de sacrifier les deux filles.
Dans leur centre de détention, nous avons pu rencontrer Big Boy et Tumelo sans micro. Nous étions possédés, nous ne nous rappelons de rien, disent-ils. Nous avions fumé des joints et nous étions fâchés parce que l'une des deux filles avait refusé de signer un pacte avec le diable. Big Boy était violent et dépressif depuis le décès de son père, mort du sida en 2008, et la maladie de sa mère. Tumelo, lui, était victime de son père alcoolique, comme l'explique la mère de Big Boy.
Quand il rentrait à la maison, son père engueulait Tumelo. Il lui disait « fais ceci, fais cela ». Il le battait, il était violent avec toute sa famille, même avec sa femme.
Pour ces deux jeunes, le satanisme était un moyen d'oublier leurs problèmes.
Ils regardaient des films violents, plein de choses. Je pense que c'était pour avoir du pouvoir. Ils disent qu'à l'école, ils se faisaient appeler roi et prince. Leur prêtre à eux leur a promis qu'ils n'auraient plus de problèmes, qu'ils seraient riches, qu'ils auraient la belle vie qu'ils souhaitaient.
Après les États-Unis, l'Afrique du Sud est le pays où le satanisme attire le plus d'adolescents. Nikki Falkoff y a consacré sa thèse de doctorat.
Dans ces deux pays, il y a une forte violence dans la vie quotidienne. Ils ont aussi une tradition très forte d'église évangélique fondamentaliste de droite. Et je pense que c'est l'un des facteurs majeurs qui alimente la paranoïa des gens à l'égard du satanisme.
En Afrique du Sud, le satanisme s'est d'abord développé chez les Blancs dans les années 80. Ce n'est que depuis quelques années que le mouvement occulte fait des émules dans les townships.
Au début des années 80, on a vu le commencement de vagues de panique et d'hystérie à l'égard du satanisme. C'était toujours des Blancs. Selon mes recherches, les Sud-Africains blancs se sont tournés vers le satanisme en raison de l'angoisse suscitée par la fin probable de l'apartheid. La domination blanche était menacée et les gens ont imaginé cet ennemi fantasmagorique. Mais à la fin, les Blancs ont réalisé que Mandela n'était pas un diable. Le satanisme s'est alors fondu progressivement dans la tradition occulte africaine, beaucoup plus ancienne et riche, selon laquelle on peut obtenir des pouvoirs et un contrôle dans un monde où l'on se sent plutôt désarmé. En général, ces jeunes ne viennent pas de familles heureuses. Le satanisme peut être un moyen pour des jeunes de résister à une situation très malheureuse en adoptant une pratique qui fait peur à tout le monde.
L'an dernier, à Soweto, un jeune a tué 4 membres de sa famille. La police déplore une hausse des actes de satanisme. 48 plaintes ont été enregistrées en 3 mois, rien que dans la région de Johannesburg et Pretoria. Valérie Hirsch à Johannesburg pour la Deutsche Welle.
Afrique 7 jours, et c'est maintenant l'heure de Afropresse, l'Afrique à travers la presse allemande. Et pour commencer, Marie-Ange, on reparle de l'engagement militaire de l'Allemagne en Afrique, plus précisément en Somalie.
Un engagement plutôt symbolique, Fréjus, puisque comme l'annonce entre autres la Berliner Zeitung, le gouvernement allemand veut envoyer jusqu'à 20 soldats en Somalie dans le cadre de la mission européenne de formation de l'armée somalienne. Ils appuieront là-bas la formation de formateurs dans l'infanterie et le génie. À la fin de l'année dernière, rappelle le journal, Berlin avait refusé toute participation à une mission en Somalie pour cause de situation sécuritaire jugée trop dangereuse. La décision du gouvernement doit encore être avalisée par les députés, alors que les écologistes et la gauche radicale, note la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ont déjà émis des réserves. Pour les Verts, rien ne garantit que les soldats somaliens formés par l'UE seront par la suite vraiment loyaux envers le gouvernement somalien. La gauche radicale, elle, juge la mission beaucoup trop périlleuse. Le journal relève par ailleurs que, contrairement à ce qui était prévu, le gouvernement n'a pas abordé la question d'une éventuelle participation allemande à la mission de stabilisation en Centrafrique. Il est vrai, note die Tageszeitung, que le déploiement de cette force d'intervention européenne ne cesse d'être repoussé. Peut-être n'aura-t-il jamais lieu. L'équipe de la Bundeswehr, qui devait aller explorer les perspectives du stationnement d'un avion hôpital allemand, n'est toujours pas partie et ne partira pas de sitôt. Si la ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, est favorable à une participation allemande aux côtés des Français, le ministre de la Coopération, Gerd Müller, a exprimé son scepticisme lors de sa récente visite à Bangui. « Je n'ai pas entendu, a-t-il dit, d'appel à l'envoi de soldats allemands. J'ai vu des enfants qui pleurent et une misère criante. »
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les casques bleus de l'ONU sont toujours présents par milliers. Et comme le relate la presse allemande, Marie-Ange, ils encouragent les rebelles rwandais des FDLR à rentrer dans leur pays.
Et cela signifie tout d'abord, lit-on dans la Süddeutsche Zeitung, à passer par le camp de Mutobo, un camp rwandais de démobilisation et de réinsertion des rebelles rwandais rentrant de l'est du Congo. Après le génocide de 1994, rappelle le journal, beaucoup de génocidaires sont passés au Congo où ils se sont rassemblés au sein d'un groupe rebelle dénommé FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda. Aujourd'hui encore, ce groupe recrute de force des jeunes gens, pille des villages, s'enrichit avec le trafic d'or et de coltan et fait la guerre à d'autres groupes rebelles comme à l'armée congolaise. Depuis peu, la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, a de plus en plus recours à des largages de tracts pour inciter les combattants des FDLR à rentrer au pays. Elle fait aussi intervenir à la radio des ex-rebelles rentrés au Rwanda. Ceux-ci s'adressent à leurs camarades restés dans les forêts congolaises. Ils leur assurent qu'à l'inverse de leur chef, ils n'ont rien à craindre, ni prison, ni exécution. Depuis 2001, poursuit le journal, le Rwanda a préparé dans le camp de Mutobo plus de 10 000 ex-rebelles à un retour à la vie civile dans leur pays.
Dans le reportage au début de ce magazine, nous parlions de satanisme en Afrique du Sud. Et bien dans ce pays, il y a un autre sujet qui défraie la chronique. Une piscine, un amphithéâtre, un héliport, ce n'est là qu'une partie des aménagements qui ont doté la résidence privée du président sud-africain Jacob Zuma. La médiatrice de la République lui reproche de les avoir financés avec des fonds publics. Et l'affaire, Marie-Ange, fait donc grand bruit. Sans surprise, elle intéresse aussi la presse allemande.
La médiatrice en question, Tuli Madoncella, a pour tâche de mettre au jour la corruption dans l'administration, relève la Frankfurter Allgemeine Zeitung. C'est un poste attribué uniquement à des gens qui bénéficient de la bienveillance du chef de l'État. Jacob Zuma n'aura donc pas été le seul à être surpris de constater que Madame Madoncella prend vraiment son travail au sérieux. Son constat est en tout cas sans équivoque. Zuma a violé le code éthique qui l'engage à ne pas gaspiller l'argent public et devra rembourser une grande partie des frais engagés. Ce rapport, souligne le journal, ne peut pas tomber à un plus mauvais moment. Début mai, des élections générales sont prévues en Afrique du Sud et presque tous les instituts de sondage prédisent un net recul à l'ANC, non pas parce que le parti est moins apprécié, mais parce que Zuma, comme candidat vedette de l'ANC, jouit d'une faible confiance.
Enfin, plusieurs journaux Marie-Ange rendent hommage à l'avocate camerounaise Alice Nkom. Elle a reçu, il y a quelques jours à Berlin, le prix des droits de l'homme 2014 de la section allemande d'Amnesty International. C'est son engagement en faveur des droits des homosexuels qui a été récompensé.
Le quotidien Die Welt rappelle qu'en Afrique, les homosexuels sont persécutés, battus, emprisonnés et assassinés. Dans 37 États du continent, ils doivent redouter des peines draconiennes. Mais Alison Combe, souligne le journal, ne se laisse pas intimider. Die Tageszeitung s'étonne malgré tout du grand nombre de pays africains dans lesquels l'homosexualité n'est pas interdite, à savoir la majorité des anciennes colonies françaises, mais aussi l'Afrique du Sud, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Autre sujet d'étonnement pour le journal, les homophobes africains ne cessent d'accuser l'étranger, en particulier l'Occident, de propager l'homosexualité en Afrique. Or, souligne la TATS, à la lumière notamment des églises pentecôtistes américaines qui prolifèrent en Afrique, ce sont des leaders religieux étrangers qui tiennent en Afrique les prêches les plus virulents contre l'homosexualité. Des fondamentalistes chrétiens et musulmans qui développent des réseaux d'écoles, d'hôpitaux, d'orphelinats ou d'autres institutions caritatives et gagnent ainsi en influence.
Merci beaucoup Marie-Ange pour l'Afropresse. Et voilà, c'est terminé pour ce magazine Afrique 7 jours. À la présentation, Marie-Ange Pierron et Fréjus Quenhomme. Merci à tous de nous avoir suivis.